Puisque nous sommes un peu pressés par le temps, je vais demander à Eliette et à Jean-Charles de venir s'asseoir. Vous pouvez rester là. Hein, et je vais moi-même, donner un petit peu un témoignage de l'activité, rapidement, de l'activité d'Edmond Charlot à Izmir. J'ai connu et j'ai travaillé pendant 2 ans avec Edmond Charlot, qui était à l'époque le directeur du centre culturel d'Izmir. Et c'était un métier qu'il apprenait, puisqu'en fait, il arrivait dans une activité nouvelle. Bon, je pense que la majeure partie d'entre vous savent effectivement que l'activité d'un centre culturel à l'étranger, c'est de travailler au rayonnement de la culture française, et de travailler au rayonnement de la culture française dans trois grands axes. Le premier grand axe qui est le cours de langue, le deuxième grand axe qui est la connaissance du cinéma. Et on ne l'a pas souvent dit, et pas assez souvent dit, Edmond aimait le cinéma. Et aimait le cinéma, aussi bien les longs métrages qu'il présentait et sur lesquels il réalisait une documentation, qu'un certain nombre de courts métrages. Il avait une passion notamment pour un court métrage qui tournait autour d'une petite cuillère égyptienne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et il n'avait de cesse que de repasser sans arrêt ce film qui tournait et qui racontait effectivement l'histoire de l'Égypte. Alors, plutôt que de donner des grands axes, je voudrais simplement vous livrer 3 anecdotes. La première, c'est qu'il ne fallait pas lancer une idée à Edmond Charlot, car après qu'il l'eut examiné, trituré, reformulé ou modifié, on se retrouvait personnellement obligé de la mettre en œuvre. Je me suis retrouvé ainsi une année taxé d'une conférence sur Héraclite d'Éphèse, et Éphèse est à quelques kilomètres de Smyrne, d'Izmir. Et puis l'année suivante, je me suis trouvé taxé d'un hommage à Valéry, dont on fêtait je ne sais plus quel anniversaire. J'avais 25 ans, mais là aussi, ce qui m'est arrivé est arrivé à bien d'autres. Deuxième type d'anecdote, comme tout grand patron, il prenait les devants et allait vous chercher quand il pensait que cela pouvait être utile et que vous pouviez être utile. Ça pouvait être dans des circonstances très différentes. Je me suis retrouvé comme ça, tout jeune, à une table ronde sur Albert Camus, avec ses copains, Charles Poncet, Émile Scotto-Lavina. Je dois avouer que je n'ai pas le souvenir d'avoir été très brillant ce jour-là. Et aussi, je dirais, de temps en temps, il vous demandait de l'accompagner. Et j'ai accompagné Edmond Charlot chez l'imprimeur qu'il a fait travailler sur les deux volumes qu'il a imprimés à Izmir, car il était passionné d'impression. Et cet imprimeur, il parlait plus ou moins le français, donc il fallait arriver à s'entendre. Et Edmond avait fait travailler un tout petit imprimeur dans le bazar, qui avait une vieille machine typo qui vraiment était élémentaire. Mais c'était ça, Edmond, aussi. C'était, je vais vous montrer, c'était, allez, j'ai besoin que vous m'emmeniez en voiture. Sous-entendu, ça vous fera du bien aussi de regarder comment on fait de l'impression et d'imprimerie. Et il allait toujours chercher celui qui jugeait compétent ou intéressant, même si ce n'était pas d'un classicisme de bon ton. Troisième anecdote que je voudrais raconter, il savait déléguer quand il était absent, ce qui était peu fréquent. Car Edmond était d'abord un homme très présent sur le terrain. Alors, je me souviens d'un jour où, absent, il m'avait demandé de l'excuser auprès du public du ciné-club, d'excuser son absence, et puis il se trouvait que ce jour-là, le film n'était pas arrivé, donc on projetait un autre film. Et le projectionniste, inattentif, avait lancé le film à peine mon premier mot prononcé, me coupant la parole. Les explications le lendemain d'Edmond avec le projectionniste furent très tendues. C'était cela aussi, Edmond, respect de l'autre et exigence. Voilà ce que je voulais dire comme, hein, comme anecdote à propos de, d'Edmond, directeur du centre culturel. Alors nous allons passer maintenant à la dernière partie de cette table ronde. Et j'ai à mon côté Eliette Paris, poétesse et dans la collection Méditerranée vivante, et qui représente un des derniers textes que Edmond ait publié et choisi. Et Eliette, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Pourquoi tu as envoyé tes textes, ton texte à Edmond?
Très volontiers. Effectivement, je vais essayer pour vous pour arriver à la rencontre avec Edmond Charlot, que j'ai connu tard, contrairement à beaucoup.
Plus près du micro.
Donc, pour essayer de vous raconter comment enfin, ma rencontre avec Edmond Charlot, c'est une rencontre qui est venue tard. C'était en 2002, autant que je me souvienne. Il y a tout un cheminement qui s'est fait, un cheminement un peu en famille, si je puis dire. Donc moi, j'ai passé mon enfance dans une ferme de la Mitidja, près d'Alger, et j'ai baigné dans une atmosphère arabo-musulmane. J'avais une nounou berbère. Enfin, j'étais dans cette campagne algérienne magnifique, avec des orangers, des citronniers, cette terre africaine, terre algérienne très riche, et environnée par des hommes et des femmes qui habitaient sur la propriété de mes parents et qui faisaient partie de ma famille, en fait. Et donc, j'ai été façonnée par ce monde, à la fois par la nature, la beauté de l'Algérie, et ce monde qui n'était pas le nôtre en même temps, mais qui était le mien, parce que quand on est enfant, on absorbe comme une éponge son environnement humain. Et quand on a quitté l'Algérie, bien longtemps après, c'était une très grande souffrance pour moi de ne plus être en contact avec ces beautés de la nature et ces beautés humaines, ces gens très simples que j'ai rencontrés, très pauvres. On disait des mesquines en Algérie. Les petits n'avaient rien, sauf une immense dignité, une force vitale absolument extraordinaire, un courage extraordinaire, et qui me donnait beaucoup d'amour quand j'étais enfant. Et j'ai commencé à écrire des poèmes en vers libre, parce que j'ai essayé d'écrire, de fixer ces souvenirs dans la prose, ça venait pas, c'était lourd. Et donc, j'ai choisi la voie poétique, ou je choisis, c'est venu comme ça, avec des vers libres, et j'ai écrit, et c'était ma manière de garder mes racines avec ce monde que j'avais perdu. C'était quelque chose de très intime, c'était mon écriture, je le vivais en parallèle à ma vie parisienne, voilà. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi je ne publierais pas? Donc j'avais quelques copains dans le monde de l'édition à Paris, et à qui j'ai parlé de mon projet, qui m'ont rayonné en disant « Mais plus personne ne lit de poésie, aucun éditeur à Paris n'acceptera de publier. » Et en plus, tu es profondément inconnu, complètement inconnu, et tu n'as aucune chance. Et j'étais amère parce que j'étais passée au stade où j'avais envie d'être publiée pour qu'on lise, pour qu'on... Un peu aussi pour tous ces clichés qui collent à la peau des pieds noirs, qui est autre chose, un autre témoignage. Et je connaissais bien Jean Pellegris à double titre, parce que la famille Pellegris avait des terres dans la Mitidja à côté des nôtres. On était voisins de palier, en quelque sorte, si je puis dire. Même si je n'ai pas connu Jean Pellegris dans la Mitidja, Jean Pellegris avait l'âge de mes parents, et il n'était plus là. Mais la famille Pellegris, c'était une très grande famille qui avait de très grandes propriétés, et on les connaissait, c'était des proches en quelque sorte. Et j'avais une admiration profonde pour Jean, pour ce qu'il avait écrit. Les Oliviers de la Justice, ça se passe dans une ferme qui était à côté de la nôtre, et avec une sensibilité sur ce monde arabe, ce monde ouvrier, qu'il avait tellement bien rendu. Et puis il avait écrit le Maboul, qui est quelque chose qui est moins connu, Mais je vous invite à écrire le Maboul. Il rentre dans la peau d'un vieil arabe. Et c'est sublime. C'est une des choses les plus extraordinaires de la littérature en langue française, témoignage de cette époque. Et donc, j'ai fréquenté Jean Pellegri à Paris, à travers toutes sortes de rencontres, etc. Et j'avais mes poèmes comme ça. Je suis allée voir Jean. Je lui ai dit, Jean, voilà, j'ai envie de publier. Mais est-ce que vous pourriez m'aider ? Et alors, il m'a dit, écoutez, on va commencer par dans l'ordre. C'est-à-dire, je vais d'abord les lire et vous dire ce que j'en pense. Donc, c'était le premier examen de passage. C'était Jean Pellegri. Il était quand même agrégé de lettres. Voilà, bon. Et il a lu quelques poèmes que je lui avais apportés. Il m'a dit, ça vaut la peine de chercher un éditeur. Et il m'a dit, effectivement, à Paris, vous n'avez aucune chance. Et j'ai une idée, me dit-il, vous devriez envoyer ces poèmes à Edmond Charlot à Pézenas. Ce que j'ai fait. Donc, j'avais jamais rencontré Edmond Charlot de ma vie. Je le connaissais comme éditeur de Camus et autres. Bon. Et donc, j'envoie une cinquantaine de poèmes à Edmond Charlot à Pézenas avec une lettre d'accompagnement. Me présentant, je fais bien les choses, etc. Je lui dis, je vais m'autoriser à vous rappeler dans un mois, parce que j'avais quand même très peu d'espoir. Et très peu de temps après, quelques jours plus tard, le téléphone sonne à Paris, et j'entends, bonjour, c'est Edmond Charlot, j'ai lu vos poèmes, et je voudrais qu'on en parle, parce que ça m'intéresse. Et là, mon cœur a explosé de joie. C'était beaucoup plus important, beaucoup plus extraordinaire pour moi que si Gaston Gallimard m'avait appelé. Donc, j'étais folle de joie que Edmond Charlot, qui était quand même l'éditeur de Camus, de Jules Roy, de bien d'autres, s'intéresse à mes poèmes et envisage de les publier. Donc, j'ai foncé à Pézenas. Et là, je me suis retrouvée dans cette maison que beaucoup connaissent, avec la librairie à côté, rue des Litanies, le haut quartier, donc. Et j'ai été accueillie par Edmond Charlot et Marie-Cécile. Et j'ai passé, je ne sais plus, 2 ou 3 jours dans la librairie, assis en face d'Edmond Charlot. Il était dans son fauteuil. Moi, j'étais assise sur une chaise en face et on parlait. On parlait à cœur ouvert, comme si on s'était toujours connus. Et j'étais en face d'un homme, je dirais, intact. C'est-à-dire qu'il n'était abîmé par aucune mode, aucun cliché, aucune tendance. Il parlait avec une espèce d'intelligence extrêmement profonde et simple. Et c'était une expérience magnifique d'avoir cet échange. On parlait à bâton rompu. Voilà. Et puis ensuite, j'ai été invitée à déjeuner. Je me souviens que, donc à déjeuner dans leur maison, je me souviens que Marie-Cécile avait préparé une bonite au four. Une bonite. Je ne sais pas comment on dit ici, mais déjà on disait une bonite. Et on a dit une bonite. Avec des petites tomates, des oignons, de l'huile d'olive, du vin blanc. Et une bonite magnifique. Et là, de façon anecdotique, Marie-Cécile m'a dit « Mais Edmond Charlot n'aime ni l'huile d'olive, ni le vin. » Je ne sais pas si vous pouvez confirmer. Voilà. Parce que quand on parlait de négociations à coup d'anisette, je me suis dit à Pézenas, il ne buvait pas d'anisette. Voilà. Et donc, ça a été l'occasion en même temps. Donc, Edmond Charlot m'a dit qu'il souhaitait effectivement publier un certain nombre de poèmes parmi l'ensemble que j'avais envoyé. Il m'a expliqué sa relation avec Jean-Charles Domins. Jean-Charles Domins était invité à la Bonite aussi. Nous avons fait connaissance. Quelques mois après, donc est sorti un petit recueil de poèmes chez Charles Domins dans la collection Méditerranée vivante. Et ce petit recueil de poèmes s'appelle le sac de sable ou autre poème de Numidie, parce que au départ, j'avais intitulé mes poèmes « Poèmes numides », parce que je me sentais numide. Voilà, il y a la Mauritanie, la Numidie, enfin, vous connaissez tout ça. C'était, je me sentais numide. Et Edmond Charlot a refusé complètement le titre en disant « Poèmes numides », on va se demander si c'est... si c'est un truc érotique, si c'est si c'est des poèmes porno, etc. Je refuse complètement ce titre. Et j'étais extrêmement déçue parce que moi, je m'étais construit ma personnalité de poétesse numide, ça m'allait tout à fait. Et donc, il a choisi finalement. On a trouvé un juste milieu, c'est-à-dire qu'il a pris le titre d'un des poèmes qu'il aimait particulièrement, qui s'appelle « Le sac de sable ». Et donc ça a été le titre principal, et on a mis « Le sac de sable » ou « Autre poème numide ». Voilà, les choses étaient dites. Et je remercie, donc Jean-Charles était là, participé à tout cet ensemble. Je remercie sincèrement Jean-Charles Domins d'avoir publié ma poésie. Il m'a consacré poétesse et je lui dois beaucoup. Voilà, merci beaucoup.
Alors, merci beaucoup, Eliette, de ton témoignage. Hein, ce qui me frappe aussi, c'est que c'est la première fois que cet après-midi qu'on entend, qu'on a des échos de la manière dont Edmond travaillait par rapport à un manuscrit. Et n'hésitez pas, effectivement, à dire, bon, ça, c'est publiable, ça, c'est pas publiable, et à modifier, effectivement, un manuscrit qui, dans le bon sens, un manuscrit qui lui était transmis. Je crois que c'est important qu'on ait conscience que l'édition, c'est un vrai travail. Hein, et l'éditeur y fait un vrai travail et un vrai travail de collaboration avec l'auteur. Alors, je me tourne maintenant vers Jean-Charles Domins. Hein, Jean-Charles Domins, qui finalement, après une interruption de 10 ans, a repris une collection chez sa maison d'édition. Et Jean-Charles, peut-être pouvez-vous nous dire comment s'est passé le transfert, finalement, et votre rencontre avec Edmond Charlot. Et puis, quel effet ça fait d'avoir un directeur de collection comme Edmond Charlot?
Oui, bien, merci de me donner la parole donc, pour parler de cette période picénoise. Comme la plupart d'entre nous, j'ai connu Charlot quand il est venu s'installer à Pézenas dans les années 80, quand Marie-Cécile a ouvert la librairie Le Haut Quartier. Voilà. Je crois qu'on a beaucoup parlé d'Edmond Charlot et des imprimeurs. Je pense que c'est l'odeur du papier et l'odeur de l'encre qui l'ont attiré vers chez moi. J'ai d'abord travaillé pour lui en tant qu'imprimeur, donc pour la librairie, pour les expositions qu'il organisait. Et ensuite, comme partout, il a fait de l'édition à Pézenas, donc il avait créé la collection Méditerranée vivante, et il m'a confié la publication du premier volume, donc un texte de Jules Roy à propos d'Alger, de Camus et du hasard. Voilà, donc ça, c'était en 81, je crois. Plus tard, quand j'ai décidé de faire l'édition, en 1990, je suis allé le voir, non sans invitation. Je savais fabriquer des livres, j'avais une petite expérience dans la librairie, mais l'édition, je ne connaissais pas trop. Et je dois dire, comme beaucoup c'est aujourd'hui, que j'ai reçu un très bon accueil de sa part. Voilà, j'ai trouvé quelqu'un d'attentif à mes interrogations. Il y avait beaucoup d'échanges. Je crois qu'au début, ça l'avait amusé, ça l'a intéressé. Et petit à petit, notre relation a été modifiée quand Michel Puch a commencé à travailler sur la bibliographie dont on a parlé tout à l'heure. Donc, on a eu beaucoup plus de rendez-vous. Bonne mémoire d'Edmond Charlot permettait de faire les vérifications nécessaires, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'archives. À partir de là, c'est vrai que ma maison avait commencé à faire quelques titres. Il n'y avait pas de projet chez moi sans qu'on en discute avec Edmond Charlot. Et il n'y avait pas de visite chez lui sans que je sois convié. C'est-à-dire que souvent, il me disait, tiens, si vous avez un moment à perdre, je reçois un tel. Bon, évidemment, ce n'était jamais du temps perdu. Bien au contraire. Et donc, c'est vraiment une collaboration amicale qui est née. Quand des manuscrits arrivaient chez lui, donc comme celui d'Eliette plus tard, il les lisait, il me les soumettait. C'est comme ça que j'ai édité mon première pièce de théâtre, donc Ordinaire et disgracié, de quelqu'un qui habitait dans notre région. D'ailleurs, ce livre doit être ici, parce que je crois avoir lu quelque part que le dépôt légal pour le théâtre était ici. Donc, mais bon, voilà, enfin. Et donc, c'est aussi par Jules Roy, bon, un grand ami d'Edmond Charlot, qu'un manuscrit du journaliste algérien Areski Metref est arrivé chez Charlot, qui me l'a remis et on l'a publié. Donc, par sa participation, effectivement, mon univers de languedocien s'ouvrait vers l'autre rive de la Méditerranée, puisque moi, c'est vrai que j'avais aucun rapport familial avec l'Algérie et puis les apports de population. En 1995, Edmond Charlot a souhaité publier un texte d'André Bellamiche qui s'appelait « Souvenirs d'Oran » dans la collection Méditerranée vivante. Donc, bien sûr, je n'avais pas grand-chose à dire, si ce n'est que s'il m'en confiait la possibilité de l'imprimer, je le ferai. Il m'a dit « Non, mais moi, je ne veux plus m'en occuper. Dorénavant, si vous le voulez bien, on transfère la collection chez vous. » à votre catalogue. Donc c'est vrai que c'était... il en devenait directeur de collection et c'est vrai que ça... Vous me demandiez ce que ça me faisait, ben c'est vrai que ça a été un grand honneur pour moi qu'effectivement Charlot soit directeur de collection. C'est vrai qu'il...
Mais il n'a pas été, si j'ai bien compris, il n'a pas été simplement directeur d'une collection, mais finalement conseiller de vos éditions.
Absolument, tout à fait. Donc c'est vrai que c'était toujours des relations amicales qui se sont développées. C'est vrai qu'il y a eu un texte de Tatiana Roy que j'ai publié, et c'est vrai que ça a été l'occasion, on parlait d'amitié, etc., d'aller faire un voyage avec nos compagnes à Vézelay, qui est un grand souvenir d'avoir passé deux jours chez Jules Roy. Voilà. Et il y a d'autres aventures bon, qui nous ont conduit en 1998 à la création de l'association Méditerranée vivante. Donc c'est vrai que tout ça est lié. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui on est là, parce que on avait créé cette association autour et avec Edmond Charlot pour mettre en valeur les cultures de la Méditerranée. Donc on avait reçu beaucoup d'amis à lui. Il était très généreux avec son carnet d'adresses. On a reçu André Bellamiche, Temple, Pellegri, Perron Seligos, Ferrandez, André Miquel, Témim, enfin beaucoup d'autres. Voilà. Mais il avait toujours une énergie incroyable, toujours le regard tourné vers l'avenir. Et c'est bien que la plupart du temps, on oubliait son âge, quoi. C'était vraiment très surprenant, quoi. Il y a toujours eu des projets dans cette collection Méditerranée vivante, donc entre 1995, le transfert, et 2002, avec la parution du texte d'Eliette Paris, on a sorti 9 titres, donc le texte de Roland Simounet, de Jean de Maisonseul, de Manuel Roche, de Souvenirs d'Oran de Bellamiche, Perron Seligos aussi, un journal, petit journal lusitan. Voilà, il y a toujours une collaboration entre pour la collection Méditerranée vivante, mais aussi beaucoup de relations pour mes propres éditions. Et il y a eu beaucoup de projets, et notamment celui de faire une collection Méditerranée vivante essai, bon, qu'il n'a pas pu mener à son terme, dont on avait parlé, mais que j'ai concrétisé fin 2004, donc c'est-à-dire après sa disparition, avec la parution du texte de Guy Basset consacré à Camus chez Charlot, et qui a été l'ouverture de la série chez Charlot, qui va être à l'occasion du centenaire republié en Algérie. C'est une bonne chose, parce que malheureusement, les livres qu'on édite ici ont du mal à aller là-bas. Donc, ces livres de la série chez Charlot, le Camus, le Jules Roy, le Sénac, le Robles, vont être publiés. Voilà. Et après sa disparition, c'est vrai qu'en 2004, on a obtenu que la médiathèque de Pézenas porte le nom d'Edmond Charlot, qui était le président fondateur de notre association. Et grâce à la générosité de Frédéric Jacques-Temple et de Guy Basset, qu'on remercie assez, on a créé un fonds Charlot. Donc je profite pour vous dire que nous acceptons tous les dons pour ce fonds. Voilà. Et puis en 2014, ça a été l'aventure du centenaire. Voilà.
Merci. Alors, je ne vais pas faire comme dit tout à l'heure, avec un piano, essayer de faire des roulements de tambour ou des cloches, mais le temps est maintenant imparti. Je suis désolé pour M. Mollier sur les éventuelles questions qu'on aurait pu lui poser. Alors, on peut s'octroyer 5 minutes, montrant à moi, pour poser quelques questions. Allez-y, madame.
Alors, ce sont les éditions El Kalima qui vont publier ce texte-là.
Non.
Alors, non, a priori, non, a priori, parce que c'est vrai que finalement...
Oui, toute la série, les auteurs chez Charlot, sera réunie en un volume global, en Algérie. Et effectivement, je dirais, les volumes imprimés en Algérie et édités en Algérie sont très difficiles à trouver en France, voire impossibles. Oui. Est-ce qu'il y a... Oui ? Merci de ces informations qui, j'allais dire, proviennent presque de la source, des services de la recherche. Il y a un certain nombre de publications dans les cahiers de l'histoire de l'ORTF, notamment là-dessus, mais tout n'y est pas. Guy.
Je voudrais profiter de la présence d'Hervé Lemain pour lui demander s'il a souvenir d'une série d'émissions qui auraient été projetées, mais sans doute pas réalisé, sous le titre Le fil d'Ariane.
Pas du tout.
Il y a une longue liste dans les archives personnelles de Belmont Charlot. Il s'agissait, et donc c'est en collaboration avec André Lemain, de rechercher des vérités évidentes perdues autour d'un certain nombre de thèmes. Fil d'Ariane, cheval de Troie, Auguste en neuf, etc. Ça ne nous dit rien.
Absolument rien. Alors, je suis désolé, mais je n'ai jamais entendu parler. Non, je n'ai jamais entendu parler d'un tel projet. Non. Pas du tout.
Alors, une dernière question peut-être, oui, ou une dernière remarque.
Je me suis posé une question. été reprise d'ailleurs par François-Louis dans le catalogue. Edmond Charlot, qui est un tout petit peu connu à Alger en même temps que Mahmoud Feraoun, n'a pas eu l'occasion de publier de texte. Bon, on aurait pu. Mahmoud Feraoun a publié le compte du cours à son auteur. Bon, je ne sais pas si Edmond Charlot savait qu'il avait ce projet en cours. Et je trouve qu'il a eu une action beaucoup plus forte avec les artistes, c'est-à-dire les artistes algériens, que vers les hommes de plume, enfin les hommes de plume, les littéraires algériens. Voilà, j'aurais voulu avoir un éclairage sur cette.
Alors, vous soulevez effectivement une bonne question. Hein, je vais tenter d'y répondre. Hein. Le fils du pauvre, d'abord, a été présenté aux éditions Charlot, hein, et refusé par les éditions Charlot, notamment près de Thon, hein, suite à un refus donné par Jean Amrouche. Et Edmond Charlot a toujours regretté de ne pas avoir publié Le Fils du Pauvre. Ça, c'est un premier élément. Je ne peux pas dire qu'il s'est rattrapé, mais il a racheté probablement une partie du stock, hein, du Fils du Pauvre qu'il a diffusé en Algérie. Une des questions qu'on a, et un des bruits qui courent, c'est qu'il y aurait peut-être eu un rejactage Charlot, hein, de cette première édition du Fils du Pauvre. Personne n'a jamais vu un exemplaire avec rejactage. Donc ça, c'est pour donner des faits, je dirais, par rapport au Fils du Pauvre. S'il a aussi, hein, quelqu'un nous apporte un exemplaire, hein, avec rejactage, tant mieux. Hein. Mais il n'y en a pas dans les bibliothèques publiques françaises, il n'y en a pas dans les collections, hein, connues. La deuxième remarque est une remarque de type de contexte. Hein. C'est que les auteurs auxquels vous faites allusion, hein, sont des auteurs de la génération de 52 ou de 54. Hein, et que les premières publications d'auteurs algériens, hein, n'ont commencé à apparaître de façon sensible en littérature que dans les revues qui sont parues après-guerre à Alger. À un moment où, effectivement, cette génération a donc émergé, pratiquement, à un moment où Charlot n'éditait plus, hein, ou n'éditait plus que marginalement. Hein. Mais ça a été un des grands regrets, hein, et il le disait souvent, ça a été un des grands regrets, hein, de Charlot que de ne pas pouvoir, hein, ou de ne pas trouver d'auteur algérien. Simplement, il a quand même republié Jean Amrouche, Les Chants berbères de Kabylie, hein, et c'est lui qui le premier. Il a publié Jean Amrouche, et c'est lui qui a découvert et publié pour la première fois Taos Amrouche. Hein. Voilà. Peut-être que Florence, tu veux conclure. Simplement, moi, je voudrais peut-être avant que tu conclues. Je voudrais remercier, hein, les divers participants à cette table ronde, et je voudrais aussi remercier, hein, l'ensemble des acteurs de la Bibliothèque nationale, et plus particulièrement l'ensemble le personnel de l'Arsenal lui-même, son directeur, hein, la directrice adjointe, hein, et puis toutes les équipes de l'Arsenal que Florence Caudet, hein, et toutes les équipes de l'Arsenal que Florence Caudet a su organiser et a su mobiliser. Et je la remercie tout particulièrement de cette double manifestation parisienne qui, pour moi, reste la grande manifestation parisienne, hein, du centenaire, ce colloque et cette présentation, et que, effectivement, toute cette manifestation d'aujourd'hui et la présentation d'ouvrage s'inscrit à l'intérieur de l'année du centenaire d'Edmond Charlot.